podcast.com. Essaye ça.
Hey, salut tout le monde, bienvenue à Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic The Gathering. Mon nom c'est Tommy Godette et ça fait longtemps que j'ai pas animé un Terrain Basique. Ça commence à faire un mois et quelques. On a joué à Magic en draft. On va remercier Nathan qui a un petit peu pris le pilote de la chose la dernière fois, puis Andy qui s'est partagé la tâche avec les autres amis pendant les quelques semaines que je suis allé vivre des aventures à Terre-Neuve. C'est sacrément le bout du monde. Un jour, peut-être que vous serez assez chanceux pour que je vous en parle. Mais là, pour l'instant, on est à
Il paraît que tu as acheté des Wall of Wood à Terre-Neuve. Comment ça s'est passé?
Jason, oui, effectivement, j'ai acheté toutes les Wall of Wood. J'ai oublié le nom de la shop, mais le gars, il a été très sympathique. Il a dit que si tu fais en ville, j'ai dit « I'm looking for all the Wall of Woods in the world, they're mine ». Puis là, il m'a regardé weird, puis j'avais Nounours, puis ça a un peu passé. Là, Nounours, souvent, c'est un bon test pour savoir si les gens, ils sont le fun, en guillemets. Si c'est un non catégorique, ça, en tout cas, on voit là, en même temps, c'est pas simple comme ça, la vie. Là, je comprends que tout le monde, je suis le champion pour manquer mes premières impressions. Comme là, on
s'en quand même
dans ce début de show-là, c'est capoté.
T'as vidé les Wall of Wood de Saint-Jean?
Oui, je suis allé aux deux magasins, puis j'ai acheté aux deux. l'autre place, il était fermé, par contre. Moi, c'est vrai que je devrais le préciser. Mais j'ai checké sur le site, puis il n'y avait pas l'air d'en avoir. Et sinon, Andy Jacques, Andy qui est avec nous aussi. Salut, Andy.
Oui, ça va bien?
Ben oui, t'es prêt pour ton grand départ?
Déjà, on travaille fort là-dessus. On se concentre, j'étudie des affaires. Pour de vrai, puis tu sais, ça n'a pas rapport avec Magic the Gathering, malgré qu'on s'en va faire du gros Magic the Gathering. Emmanuel m'a comme dit « Hey, ça te tente-tu qu'on aille voir l'Omega Mart à Las Vegas? » J'ai fait «
Ben oui. »
Of course que je vais aller voir ça.
L'Omega Mart. Faites vos recherches sur YouTube.
Ouais, ouais. Ça vaut la peine. Je te jure que ça vaut la peine de faire tes recherches sur YouTube. Vraiment.
Puis en fait, j'étais plus jaloux que t'ailles voir l'Omega Mart.
Omega Mart, hein.
Peut-être aussi d'aller prendre une photo en avant de la pancarte de Las Vegas, là, où Neil Breen a vraiment comme mis ses billes à la table.
Hey, on va peut-être voir Neil Breen.
On vous le souhaite, ça porte bonheur, il paraît. Merci d'être là, Andy, pour jaser Magic. On est avec aussi Joe Gauthier, qui, virgule, est rendu notre spécialiste musique et qui a choisi. Qu'est-ce qu'on est en train d'entendre? Voilà.
Sérieusement, j'ai dit la semaine passée qu'avec le retour de Tommy, j'étais pour sélectionner quelque chose en jeu vidéo. Et le Mercadia, le setting, se passe dans l'Empire ottoman des années 1700. Puis il n'y a aucun jeu vidéo digne de mention, du moins à mes yeux. Qui se passe dans ce setting-là. Fait que je suis allé avec, à l'autre bout du monde, quelque chose basé sur la mythologie chilienne, avec Abyss Odyssey.
Voilà, c'est ce que vous entendez en background. Les choses étant ce qu'elles sont. Je pense qu'on est rendu à jaser de quoi? De Mercadian Mask, hein? Mais avant de passer dans le lore de ça fait quand même 200 épisodes que je le demande. Tu voulais nous jaser d'une affaire, voilà, avec des dessins, là.
Ben oui, ben moi...
Moi, j'appelle Joe Artsy Farty de la place. C'est notre Artsy Farty.
Je le prends comme un compliment, finalement.
Ben oui, tu dois. Merci. Tu dois.
Fait que l'affaire, c'est qu'on est présentement en octobre, puis Wizard of the Coast n'arrête pas de se surenchérir de comment qu'on peut faire plus de Secret Lair puis de vendre des singles à tout le monde à des prix dérisoires le plus rapidement possible. Mm-hmm. Et étant quelqu'un qui aime les illustrations puis qui a plusieurs artistes préférés, il y a deux artistes japonais du temps que j'étais aux études qui viennent de repopper dans le Secret Lair que je m'attendais vraiment pas à voir.
Ouais, c'est vrai, ça.
Dans le premier cas, on a Junji Ito qui s'est fait connaître, du moins surtout en Amérique du Nord, avec le film Uzumaki.
Ouais. Oui, j'allais acheter la BD de ça, c'est assez capoté.
C'est assez capoté. Le gars, il est cool. Il réussit à créer des affaires comme. Il m'apprend des nouveaux mots comme que j'arrête pas d'oublier, comme la peur des des trous incongrus. Tu sais, comme les trous dans un fromage suisse, là, il est capable de faire comme quelque chose d'horrifique avec ce concept-là. Il est vraiment cool. Puis c'est ça, il fait des illustrations noir et blanc sur des cartes Magic qui fonctionnent bien, puis ça te lâche, puis ça fit en même temps. Fait que j'adore.
C'est vrai que c'est hot.
Moi, je...
Il prend toute la carte, hein, c'est ça qui est le fun.
Ouais, ouais,
c'est une plaine, là.
C'est ah oui. Regardez le pu qui sort du Plague Crafter, c'est fascinant. Puis, comme tu dis, il occupe vraiment toute la carte. C'est j'aime ça. C'est un mangaka que j'aime bien lire.
C'est fou, là, parce que le Plague Crafter, check, on voit, il y a des. J'avais même pas remarqué la première fois que j'avais regardé. Il y a des. C'est plein de chauves-souris en arrière-fond, il y en a suspendu au plafond. Plus tu regardes le dessin, plus tu vois des affaires.
Oh. Junji Ito est un maître de l'horreur japonais. Là, c'est
capoté. Cool. C'est capoté. Puis l'autre, c'est quel?
L'autre, c'est juste en dessous. T'étais direct dessus. C'est encore aujourd'hui.
Oh, Metal Gear.
Metal Gear. Puis c'est ça. Il travaille malheureusement.
Ils font les Skull Clamp.
Il y a Full Skull Clamp, Furiction Metamorph, Tezzeret The Seeker. Puis ouais, il y a un style facilement reconnaissable. Il est encore avec Hideo Kojima, c'est son directeur artistique depuis des années, fait qu'il travaille plus chez Konami. Puis c'est ça, un deuxième artiste japonais que je suis content de voir sur Magic. Puis un fel fun de cet artiste-là, Yuji Shinkawa, c'est que techniquement parlant, quand tu fais du character design, surtout dans le monde des jeux vidéo, ils vont souvent te demander des lignes super clean, puis qu'on puisse voir les détails de différents angles de vue afin que les modeleurs par la suite soient capables de construire le modèle dans le jeu 3D. Puis ce gars-là fait comme, à l'inverse, c'est comme, hyper, toujours des lignes ouvertes, hyper minimalistes, mais on comprend toujours qu'est-ce qu'il essaie de représenter. Puis à l'inverse de Junji Ito qui fait des illustrations hyper saturées, lui c'est très simpliste, mais ça sort toujours cool puis slick. J'adore son approche à la science-fiction puis au character design.
C'est vrai, vendu.
Là, un mélange, on dirait comme des genres de manuels, là. Tu sais, genre un manuel Ikea un peu, là.
Ouais.
Tu sais, c'est à la limite, là, parce qu'il veut présenter des technologies, puis il gêne pas d'utiliser. Tu sais, comme le Skull Clamp, c'est pas nécessairement un Skull Clamp qu'on regarde, c'est le plan de construction du Skull Clamp. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, là.
Oh. Ah, ok. Je comprends ce que tu veux dire. T'as genre l'interface VR par-dessus.
Ben, c'est ça que je veux dire. Tu sais, parce que c'est comme si tu le regardais dans une interface MS-DOS, genre.
Ouais.
C'est très. Que tout de suite, j'ai reconnu que c'est Metal Gear. Là.
Je suis retourné voir si c'était pas rendu Legacy Legal, les Skull Clamp. J'aurais aimé ça refaire mon deck de shade de manière ultime, comme dans le temps.
J'ai une question pour toi, Joe. Yoshitaka Amano, est-ce qu'il avait fait du Secret Lair ou ça s'en vient?
Yoshitaka Amano, ça c'est ta minute.
Je pense qu'il en avait fait. Je me rappelle pas s'il n'avait fait ou si ça s'en vient.
C'est quoi son nom?
Yoshitaka.
Comme Yoshi.
Yoshi comme Yoshi, T-A-K.
Non, il n'y en a pas fait, tu vois, il apparaîtrait ça.
Ah, ok, fait que ça sort.
Non, mais je veux pas t'induire en erreur, mais je crois que. C'est-tu l'artiste de Final Fantasy?
De Final Fantasy, ouais.
Ok. Je m'en souviens pas. Genre, j'étais à 90% sûr.
Qu'il en a fait, me semble. Ou que ça s'en vient.
Non, non, c'est pire que ça, malheureusement.
Ouais, c'est parce qu'il en a fait, c'est pas lui?
Non, c'est pas lui. C'est Yoshitani, ça, c'est Amano.
Ouais.
Il a fait un Japanese exclusive box topper foil de Liliana, qui est juste là, juste en bas à gauche, je viens de le poster.
Ah, ouais, ok.
Et checker la valeur des cartes.
Ouais.
non, ça c'est Pro Tour, mais celle-là spécifiquement, là, qu'on.
Laquelle, ça c'est Magic Online promo?
Non, check View All Prints pour pouvoir l'avoir direct. Là, mais...
Ben, tu vois, avec War of the Spark, là, c'est genre 100.
Ah, c'était 100... dans War of the Spark, Alex. Oui.
Regarde, tu vois, c'est 134. Là.
Ouais, 134 pièces.
134. Puis c'est ça, c'est un Japanese exclusive, si vous voulez pogner foil.
Okay.
L'autre artiste de ce genre-là qui a une carte, on va dire que le monde s'amuse beaucoup à spéculer, c'est l'artiste qu'on connaît pour avoir dessiné Dracula et Alucard dans Symphony of the Night.
C'est-tu dans Innistrad qui avait fait des affaires?
Ouais, c'est définitivement dans le dernier, c'est le Mirthless
Hey, là.
C'est celui-là, là. Le
Siren de Murtless. Ouais, c'est diffusant, ce carte-là.
Moi, j'ai des vampires.
C'est celui-là.
Ah, Yami, OK, ouais.
Moi, j'ai hâte qu'on jase de Mercadian Mask en esti.
On a le temps,
J'ai des beaux dessins et tout, là, mais... Merci beaucoup, Joe, pour ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller avec la carte de la semaine pour faire...
On fait le... Pas de suite.
Une autre étape encore.
Non, on n'est pas là encore.
On commence avec Mercadian Mask. À un moment donné, il va avoir la carte de la semaine, puis ça va être sorti de ton dédale, puis tout, de l'histoire du lore, puis du reste. Parfait. Je ferme ma gueule. Merci beaucoup d'être là, tout le monde.
Et Mercadian Mask, c'est sorti en... attends, je share mon screen pour ceux qui nous pongent sur YouTube. Est-ce que vous voyez à l'écran les trois boosters?
Ouais.
Mercadian Mask, sorti en octobre 1999. Tommy, à quoi ça te fait penser, Mercadian Mask? Pourquoi ça fait 200 épisodes là, que tu me dis qu'il faut qu'on fait Lord of Mercadian?
Moi, c'est de toute l'histoire de jouer à Magic puis de découvrir des nouveaux sets puis d'avoir des nouvelles cartes. Là, c'est celui qui m'a le moins stimulé à faire des nouvelles affaires. Puis au-delà de ça, c'est pas parce qu'il y avait comme des pouvoirs niaiseux, là, souvent. Tu peux comme jeter une carte bleue pour faire un spell, pour, tu sais, que ça te fait comme un unsummon, mais là, tu jettes n'importe quelle carte bleue parce que t'as le bonhomme en jeu. Mais j'ai jamais réussi à rien faire de bon avec cette set-là. J'ai probablement mon deck d'oiseau quand j'ai mis dedans l'enchantement qui fait que toutes les fois qu'une créature t'a fait du dommage, tu peux piger une carte, du dommage à un joueur, puis avec des flying, il y en a beaucoup d'oiseaux, beaucoup de cartes. Puis, okay. mais Mercadian Mask, je sais pas dans l'histoire. Je pensais même pas que Gérard était impliqué. Là. Je savais pas c'est quoi qui se passait. Puis là, j'ai écouté, hein, je suis avec vous autres, là, je sais, tout a pété, puis tout va bien. Là, il n'a plus de Phyrexien, c'est réglé.
Ouais, c'est réglé. Fait que là, si j'ai bien compris, t'avais hâte à Mercadia parce que t'as Mercadia ou t'as aucun intérêt pour Mercadia. C'est ça?
C'est parce que c'est le truc qu'il connaît le moins. Je pense. C'est ça que j'ai compris.
Ben c'est ça. Je le connais pas trop. On verra bien avec ça. Puis je suis prêt pour avancer. Puis les rengaines. Puis les plus.
Puis Joe?
Moi c'est dread dans le bout, tu sais que j'avais arrêté de jouer à Magic jusqu'à récemment.
Il y avait des pirates, c'était les premiers pirates aussi, ça j'aimais ça en tabarnak parce que j'adore les pirates. Excuse-moi Joe, j'adore les pirates.
C'est parfait, mais je vois juste... je vais avoir acheté des singles de Mercadian Mask, parce que des fois il y a des mécaniques comme un peu bizarres, mais janky qui sont le fun à jouer. Puis il y a une carte qui synchronise super bien avec Wall of Wood, qui vient de ce set-là, qui s'appelle Wave of Reckoning. Ça te fait un one-sided board wipe. Parce que toutes les créatures se frappent en pleine face.
Ah, ouais. Avec un deck de wall, tu veux dire, t'as pas besoin du wall of wood, là. C'est 4 colorless, un blanc, un sorcery. Chaque créature se fait du dommage à elle-même égal à son power. Fait que vu que tout le monde se fait des decks avec plus de power que de défense, ça reste très bon, ça, vu que toi, tu le vois venir. C'est très bon.
Bendy.
Oh, moi, il y a une grosse période que j'ai arrêté de jouer, que genre, j'ai donné toutes mes cartes à mon petit frère, puis c'est lui qui a comme, tu sais, moi, j'avais pas une manière, puis ça, je pense, j'en ai parlé au début de Magic the Gathering, littéralement, là, que je veux dire, au début de terrain basique, où est-ce que je disais que, moi, j'étais le genre de joueur compulsif que, au lieu de faire des échanges de cartes pour avoir des meilleures cartes, je faisais juste acheter des boosters. Fait que j'ai dépensé, tu sais, comme le gambler, genre. Ouais. Puis mon frère Alexis, était vraiment meilleur que moi pour faire des échanges, bonifier les decks. Fait que moi, j'y avais donné genre mes 2000 cartes en disant moi, je joue plus. Parce que je pense, à ce moment-là, si je me trompe pas, j'ai découvert le sexe avec des personnes. Fait que ça...
C'est quoi ça?
C'est ça.
Tu as peur de
deux. Fais pas semblant, t'en as deux. mais... Fait que ça a juste comme... J'ai arrêté de jouer jusqu'à quand même relativement récemment, depuis que je suis revenu au musée de l'absurde des chutes.
Écoute, c'est la même chose pour moi. Mercadia est inconsciemment l'une des raisons pourquoi j'ai arrêté de jouer à Magic. Puis en fait, c'est à cause des sets avant. Le Mercadia, c'est faut le comprendre dans son contexte, pourquoi il est aussi peu aimé. Mark Rosewater lui-même a dit que sur son échelle de Rabaya, là, ça c'est comme ça qu'il juge est-ce qu'on retourne sur un set ou pas.
Mercadia, Rabaya étant à la place qu'on retournera jamais parce que c'est de la merde.
Arabian Night.
Okay.
Fait que Mercadian Mask est à 9. Parce que il y a eu, la réaction a tellement été négative que même leur département de marketing est même pas capable de faire comme « Ouais, je pense qu'il y a de la nostalgie qu'on peut aller chercher là. »
OK, OK.
C'est juste, ils touchent plus à ça, pas en tout. C'est à... Oups.
C'est la belle époque, hein? Ah, imagine, hein? Ouais.
Fait que le problème de Mercadia, c'est que il y a... C'est à cause de où c'est qu'il est sorti. Puis on avait parlé beaucoup... Ah, excusez-moi.
Mais oui, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe avec mon écran? Bon.
Ben ouais.
Attends, je vais restarter cette affaire-là. Là.
Wall of Wood Assets.
moi, mec, j'ai vu ça.
Je suis en train de comptabiliser toutes les vidéos des Wall of Wood. Je vais pas mettre ça sur YouTube à un moment donné. Fait que c'est ça. Mercadia, quand il est sorti, ce qu'il voulait faire, c'était un bloc. C'est 3-7, Mercadia à l'automne, Nemesis à l'hiver, Prophecy au printemps. Puis contrairement à, mettons, tu sais, comme Tempest, c'était la même histoire qui suivait sur 3-7. Urza Saga, qu'on a parlé tout l'été, c'était le passé d'Urza sur plusieurs siècles, sur 3-7. Mercadian Mask, le bloc, c'était trois histoires séparées sur trois planètes différentes.
OK.
Puis Mercadian Mask, pourquoi il y a peu de gens qui savent que c'est dans le Weatherlight Saga, c'est que c'est un side quest. J'aurais pu décider de pas faire l'histoire de Mercadian Mask, puis on s'en aurait même pas rendu compte dans le flow de l'histoire, parce que c'est vraiment un side quest.
OK.
C'est niaiseux de même. Puis le problème de Mercadian, c'est qu'il est sorti après Urza Saga. Puis, on se rappelle, Urza Saga, ben Urza Legacy, c'est le combo Winter de l'hiver 99.
Qui a failli tuer Magic.
Ça a, quand on fait la blague, ça a failli tuer Magic. Le combo Winter a failli tuer Magic. Il y a eu beaucoup de monde qui ont arrêté de jouer à Magic pendant cet hiver, ce printemps-là. Et le département qui fait les cartes Magic, ils ont décidé de peser sur le break. Puis, quand tu pèses sur le break, ben c'est Mercadian Mask qui était le break en particulier. Parce
c'est
que,
un peu comme Fallen Empire après Ice Age.
Ouais, Homeland.
Homeland, ouais.
Même aussi. Chose. Puis Mercadian Mask, c'est vraiment un des sets les plus faibles.
Ah!
Mais quand tu regardes ces mécaniques, tu te rends compte que ça aurait pu être un set dégénéré. Parce que le seul, une des seules gimmicks de Mercadian Mask, c'est de cheater des cartes en jeu. De jouer des cartes gratuites.
OK.
C'était comme plein de façons, là, je vais en parler. Là. Fait que c'était... on se rappelle, à la fin d'Exodus, que j'ai parlé là, il y a deux semaines, le Weatherlight, il se faisait poursuivre par le prédateur, puis il se sauve par le portal à la fin que Urza ouvre. Vous vous souvenez de ça?
Moi, je m'en souviens.
Puis, en passant dans le portal, où est-ce que le Weatherlight se ramasse? C'est le plan de Mercadia. Fait que là, il voulait présenter le plan de Mercadia. C'était la première fois que Magic faisait une histoire qui se passait pas sur un endroit qu'on avait déjà vu avant. Il essayait d'être original. T'sais, Rat, c'était les Phyrexiens, mais Mercadia, ils vont essayer de faire ça le plus attaché à rien pantoute. Okay. Donc, c'était surtout Mark Rosewater qui a travaillé sur le set. Fait que tout a un aspect goofy. Pis ça m'énerve beaucoup dans le artwork. C'est quand même un gros set, c'est une centaine de cartes. Et à la base, il est fait comme un core set, c'est-à-dire que tous les spells qu'il y a dans le core set sont dans Mercadia. Il y a Disenchant, il y a Counterspell, il y a Dark Ritual.
Il est marqué 350 en bas.
Ouais, c'est 350 cartes. Donc, tu sais, toutes les cartes du core set étaient dans Mercadia, mais avec du lore de Mercadia, du monde de Mercadia. Fait qu'à la base, la plupart des cartes, c'est... Ben pas la plupart, mais t'as un gros paquet de cartes que c'est juste des reprints du core set. Et après ça, là, t'as les cartes que Mercadian Mask se démarque par ses mécaniques. Puis comme j'ai dit, c'est... La gimmick, c'est... Vu que c'est comme des masques... Ça fait référence à des genres d'intrigues, des complots. C'est un peu comme l'ancêtre de Ravnica, ce set-là. Là. Ce qu'il voulait faire, Joe l'a dit au début, là, c'est genre l'Empire ottoman du 16e siècle.
Ouais, okay. les masques, ça serait plus 19e siècle France, la belle époque.
C'est victorien, ouais.
Il mélange, il essaie pas d'être précis, c'est un monde fantaisiste et un peu science-fiction. Fait que c'est que les cartes ne sont pas ce que tu penses qu'elles sont en réalité. Le Castinka, ça n'a pas tellement rapport. Il y a beaucoup de cartes dans Mercadian qui se mettent gratuites. Je vais vous donner un exemple ici. Il y a un cycle de Uncommon. Puis bien sûr, c'est un set qui était fait pour drafter. Là. C'est toutes des créatures qui coûtent quand même cher. 3 ou 4. Mais que tu peux mettre gratuit si ton adversaire contrôle un land de la couleur ennemie et que toi, tu contrôles un land de la couleur de la carte. Wow. Je vais donner l'exemple, Saprazan Legat, qui est un soldier 1-3 pour 4, flying. Si ton adversaire a une montagne, toi t'as une île, tu peux le mettre en jeu gratuit. Là, tu joues un deck de créatures dans le vert, Rushwood Legate. Mm-hmm. C'est pour 3, c'est un 1-3, mais si l'autre a une île, toi t'as une forêt, tu peux le mettre en jeu gratuit.
C'est pas super bon quand même.
Hein? Les créatures, ils ont l'air faibles, parce que comme j'ai dit, le set, ils ont vraiment mis le pied sur le break. Là. Vous allez voir, les cartes sont vraiment poches. On va passer la soirée à dire « My God, c'est donc même pas bon ».
C'est vrai.
Mais tu vois en même temps que le potentiel, c'était...
Ouais, clairement. Là,
dans l'optique de Urza Saga, c'est faire des cartes. Ben, ils se disaient « Ça va être ça, le prochain hype ».
On dirait que c'est comme une manière aussi de répondre au concept qu'il y avait comme un méta qui se créait, là, qu'il y avait des revues, qu'il y avait des reviews, que le monde il se parlait de ce qui pognait dans les tournois. Peut-être une bonne manière de revenir contre le Dark Winter, que tout le monde jouait noir, mais c'était justement de créer un monstre comme le Chowarim, le Gate, que t'aurais pu mettre en jeu gratuitement. Puis,
si l'autre il joue noir parce qu'il est protection contre le noir,
Ça
se peut aussi, oui.
Une espèce de manière de répondre à ça. Là.
Mais je pense. Vas-y, Joe.
Ben, honnêtement, j'aime bien le Depot de Legate. Il est jouable en Commander, ce qui est pas nécessairement...
Oh, lui, oui.
Lui, oui, parce que comme, tout le monde...
Un qui se pompe, là. Ouais, il est gratuit si l'autre a une forêt, ouais.
Ouais, puis tout le monde a une forêt, fait. Ouais. Un monstre pour zéro, moi, je trouve que c'est pas excellent, Commander. Il y a moyen de briser Commander, mais c'est des signes...
Ça se tient.
C'était bon.
Mais tu vois, il n'y a pas beaucoup de cartes qui jouent en Commander dans ce set-là. Là. Fait que t'as ce spell-là gratuit. Il était poussé aussi sur des. Tu sais, j'ai montré en créature, mais les Instant, les Sorceries.
Ah, ouais, ça, cette carte-là, ça faisait qu'avec.
Gauche!
Voyons, c'était. Le Stasis, tu pouvais gagner avec ça.
Ouais, gauche, 4 colorless, un bleu, tu piges 2 cartes.
Ouais.
Pour 5, c'est pas bon. Mais sauf que tu peux le cheater gratuitement, tu retournes 2 îles dans ta main au lieu de payer son mana cost, puis là tu piges 2 cartes. Puis là, ton prochain tour, ben, ça te permet de déposer des îles. Fait que si tu joues Stasis, t'es tout le temps capable de payer ton upkeep cost. Ça, c'est joué beaucoup là, dans n'importe quel deck de Counterspell en Legacy, c'est très joué, gauche. Parce que c'est un pige 2 cartes gratuit. C'est vraiment bon. Fait que ça, c'est une des bonnes cartes de Mercadia. Misdirection, c'est dans le même style. Encore là, cheater le coup. Pour 5, tu changes le spell. Tu changes le target d'un spell qui, par exemple, un lightning ball qui vise une de tes créatures, ben, tu fais misdirection, ça coûte 5. Puis le lightning ball change de target, mais en réalité, c'est que tu peux simplement enlever une carte bleue de ta main, tu l'exiles, puis ton misdirection il est gratis.
Ouais. Ça vient d'Alliance, ça, par contre. Ça, on l'avait déjà.
La mécanique à la base, oui, mais elle est poussée. Ce que je veux dire, c'est que c'est poussé. Ça, c'est un force of will, mais qui fait un genre de c'est quoi, c'est de déflexion. Hein?
Ouais.
Mais ça, c'est la base. Puis tu vois, le bonhomme, il est représenté, il y a un masque sur la face.
C'est vrai.
Vous allez voir, là, il y a les masques partout. T'as quand même une thématique qui se tient, mais je trouve que le artwork, il est lit. En 99, ils ont changé le Heart Director, c'était plus celui de Urza Saga, puis je trouve que le Heart a pris une débarque. Là. Le Misdirection, c'est une cool carte, là, mais il y en a qui tu fais vraiment comme ouf. C'est ça, regarde, le dernier exemple que je vais montrer, le Land Grant, c'est un Sorcery Vert. Si t'as pas de. Là, tu montes ta main à l'adversaire, tu sais, c'est ça que t'as payé à la place du Mana Cost.
Quand même.
Tu montes ta main à l'adversaire, puis ça te permet d'aller chercher une forêt et de la mettre en jeu. Ça, c'est bon dans des decks. Il y avait des decks de tournoi qui jouaient seulement 10 forêts et toutes des créatures qui coûtent 1 Mana Cost. Avec Land Grant, tu sais, il n'y a pas de land, je pense, dans l'histoire de Magic qui joue avec moins de land que ça, là. 10 forêts,
ouais.
Tu gagnes les pro-tours, là.
Ouais, vraiment, c'est vrai.
Fait que ça, c'est une autre bonne carte.
Sur un deck de 64, là. Pas
Ouais.
C'est ça, là, ouais, ouais, c'est ce qui est concept. Si le Mtanda Lion, hein, que
ouais.
J'en avais quatre, puis j'ai jamais réussi à mettre dans un deck parce que les elfes sont arrivés, puis j'ai boudé le verre pendant.
Mais jusqu'à ce jour.
Ben, jusqu'à aujourd'hui, là, jusqu'à hier.
C'est pas fini, c'est pas fini.
C'est assez parlé des mécaniques, on va, parce qu'on est là pour le lore, hein, Tommy?
Oui, ben là, à un moment donné, moi, j'ai entendu dire qu'il y en avait. Là, c'était une side quest pis tout.
Fait que le vaisseau Weatherlight, en passant dans le portal pour s'enfuir de Tempest, il arrive sur Mercadia, et Mercadia est une terre plate.
Ah, es-tu sûr de ça? As-tu ouais. des preuves?
C'est une terre plate, et on fait deux maps de Mercadia, et c'est des terres plates. Mercadia, c'est le concept, puis ça, c'est Mark Oswalder qui est goofy. C'est un monde de fantasy irrégulier, mais tout est à l'envers.
OK.
Puis c'est pour ça qu'au milieu de la carte, t'as Mercadian City, qu'on va voir sur plusieurs cartes, qui est une espèce de cône à l'envers. C'est une montagne, mais la montagne est sur sa pointe.
OK.
Comme la montagne de Mercadia est virée à l'envers.
Je déménagerais de Lower Mercadia. Moi, ça ouais. a l'air super fiable.
Fait que... la carte crash, on voit le Weatherlight qui s'écrase sur... Puis vous allez voir, là, l'histoire est vraiment pas claire. Là. Ça va être difficile, je vous avertis. Le crash, on voit le Weatherlight qui s'écrase sur un arbre. Ça, c'est toi encore du cost gratuit. Tu peux sacrifier une montagne au lieu de payer son mana cost. Détruire un artefact. Ça, c'est quand même bon. Puis là, lis-nous le flavor text rapidement, Tommy.
Gerard shook his head as the ground rushed to meet him. This, he thought, is not the start I was hoping for.
Fait que la side quest commence et qui s'écrase sur Mercadia. Le Weatherlight est plus capable de voler à cause de ce crash-là, là, puis de tout ce qu'ils ont vécu dans le dernier épisode. Ils vont laisser le Weatherlight là, ils vont partir comme à l'exploration, tu sais, pour chercher du gaz, dans le fond, des façons de le réparer. Et ils vont laisser le seul membre d'équipage qui reste sur le bateau, c'est Orim, qui est la Sammy Taylor, que j'ai déjà souvent parlé. Mm-hmm. Retenez ça, fait que Gérard et tout le reste du monde, ils partent à l'exploration. Et pendant ce temps-là, c'est vraiment, je trouve ça vraiment niaiseux, mais bon, c'est ça le storyline. Il y a un Tidal Bore, qui est une grosse vague, c'est un instant bleu que tu. Retour, toi encore là, payé gratuit. Tu retournes un île dans la main au lieu de payer le mana cost. Ça te permet de tap ou un tap une target créature. Fait que t'as une espèce de grosse vague bleue qui attrape le Weatherlight puis qui le tasse de blast. Et là, on comprend que la gang qui sont déjà partis, ils vont avoir de la misère à la retrouver, tu sais. Puis on se rappelle, comme j'ai dit, Orim, la Sammy Taylor, est à bord. Et elle va se ramasser chez les Cho'Arim. Qui est le peuple vert et blanc, les capes vert et blanches dans Mercadia. C'est des genres de druides hippies. Si tu check leurs cheveux, là, ils ont des genres de billes dans les cheveux. C'est vraiment weird. Je trouve ça vraiment lit, le artwork. C'est vraiment ça. Là. C'est des genres de hippies. Tu vois le Moonlight Wake qui sont en train de faire une espèce de cérémonie sur un lac à la lumière de la lune. Tu vas dans le graveyard, tu gagnes un de vie. C'est vraiment bizarre.
Le Rushwood herbaliste à droite, là, il me fait penser au méchant dans le film d'horreur poche qu'on a vu hier au douteux. Damien, il représentait le métal qui transformait les jeunes en mort. C'était vraiment de la merde.
Ah, il fait sniffer genre
ce que tu veux dire. C'est visqueux, là. Ça a l'air de sentir l'eau de Cologne.
Fait que ça, c'est les Asramon chez les Cho'Arim. En fait, c'est les Cho'Arim qui ont invoqué la vague, la grosse vague qui a ramassé le Weatherlight. Et elle devient un peu comme un genre de prisonnier d'eux autres. Ils sont dans la forêt de Rushwood. T'sais, toutes les cartes, là, tu vois, il y a Rushwood dans le nom ou Cho'Arim. Et ils vont demander à elle, c'est by the way, on a un de nos gars qui est blessé, tu pourrais-tu le guérir? C'est Orim Cure. Où est-ce qu'on voit qu'il y a comme quelqu'un qui est comme avec la jambe clairement pétée, là. Puis on voit Orim, elle a son espèce de panier de médicaments. Je sais pas trop ce qui se passe sur cette carte-là. Puis
tu vois, clairement que. Moi, je sais c'est quoi qui se passe. C'est clairement, lui, il est en train de lui montrer comment il essayait de guérir le gars. Puis ouais. Elle est comme, ben non, c'est pas comme ça se guérit.
Ah, je pense
en
que ça
donnant
fait
des,
sens.
Coups, des coups d'épée dans les.
Non. Ouais, fait que c'est ça. Elle croit pas aux méthodes hippies, hein. Elle amène la science. Fait que ça, c'est ça. C'est, tu préviens 4 de dégâts d'une target créature ou un joueur et tu peux le payer gratuit en tapant ou une créature qui était untappée qui a un mana cost égal à Orim Cure qui est de 2.
Ooh,
ça, c'est vraiment compliqué, mais vous allez voir, les cartes sont toutes gratuites, là. Puis, tu vois une autre carte là, Shooting Ball, où ce qu'elle verse une genre de bouteille de je sais pas quoi sur la tête à quelqu'un pour gagner 5 de vie, c'est un instant. Là, ça te dit, là, elle a appris à Tan Karst et les autres Shoarim, les autres guérisseurs Shoarim, des façons vraiment moins invasives de guérir du monde.
C'est clair que c'était ça, la carte d'abord, d'abord.
Un point, ta bande.
Exact. Ouais, c'est, fait, c'est clair que c'était ça que ça dit.
C'est bon, Carl, Andy. J'avais pas fait le game en tout. Ça, c'est, ça se tient peut-être plus que je pensais que ça se tenait, parce qu'à date, j'ai bien
l'air. C'est très Mark Rosewater, parce que c'est tellement nono, tu sais. C'est clair qu'il est arrivé là, puis il était comme, on n'arrive pas à être guéri.
Ben, il y a un Hoxha, genre comme pour péter les os, puis.
Ah, peut-être, c'est ça, t'as raison. Que dans le fond, il était comme, on va couper la jambe, puis il était comme, là, attends un peu, là. C'est juste une.
Ouais, je pense que c'est ça, il allait couper la jambe, puis ouais, à place, elle a fait un prevent
dans. Je pense que c'est ça, t'as raison.
Et on est quatre, puis on l'a réussi, une carte, il en reste deux.
Hey, c'était écrit expert, c'est pas pour rien. Hein?
Oui. Story Circle, on les voit qui dansent avec des masques. Encore là, l'image des masques. Et là, tu choisis une couleur, puis tu peux. C'est un genre de Circle of Protection. Hein. Tu peux payer un blanc pour annuler ces dégâts-là. Elle va rencontrer, ça c'est la créature légendaire, Shomano Révolutionnaire. Deux colorless, deux blancs, un 2-2. Il prévient tous les dégâts qui vont être faits à Shomano Révolutionnaire. Dans le fond, une autre des mécaniques qu'il y a dans Mercadin, c'est les rebelles. Puis dans le blanc, il va y avoir plein de créatures qui ont le creature type rebelle. Si tu remarqueras, là, c'est Shomano, il est un rebelle légende. Avant Mercadia, les cartes qui étaient légendaires, étaient juste summon légende.
Ouh!
Ça, c'est un gros changement majeur dans la façon dont ils faisaient les creature type. Mm-hmm. C'est l'ancêtre là, des vrais tribales qu'on a à partir de Shadowmoor. Tu sais, les tics à Astor, on est habitués, qui ont toute une.
Ouais, ils ont toutes trois classes. Mots, là. Ils ont toutes trois mots, là. Une race, puis au moins deux classes après, là.
Ouais, mais ça, c'est. Le Mercadian, c'est le premier qui a amené ce concept-là. Oh. Fait que, bien sûr, hein, parce qu'on est dans le cliché bien gras, Orim, elle va sortir avec Shomano. Ils vont devenir comme lover-lover. Mm. Puis, il va lui expliquer que la raison pourquoi ils ont fait amener le gros bateau avec la vague, c'est qu'ils ont reconnu que c'était celui qui avait fait le Weatherlight était le même créateur qui avait fait leur dieu Ramos. Puis c'est mentionné sur d'autres cartes là, que j'ai pas sous moi en ce moment, mais que les Shoarim, leur dieu, il s'appelle Ramos. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes qui s'appellent Ramosian dans les rebelles.
Oh. Puis ça, c'est un gars de Brothers War.
Gâche pas les punches, Jonathan. Juste qu'on sait jusqu'à date, c'est qu'il prie une entité qui s'appelle Ramos. Sont en guerre avec les Shoarim sont en guerre avec. La cité de Mercadia, qui est l'espèce de cône inversé, qui sont surtout des cartes dans le rouge. Comme un Territorial Dispute, hein, les joueurs peuvent pas jouer de land. Au beginning de ton upkeep, tu sacrifies du Territorial Dispute, à moins que tu sacrifies un land. Coûte 6. Bit by bit, Mercadia City had forced the Shoarim from their ancestral land. They will be pushed no further. Fait que là, dans le fond, on comprend que la cité de Mercadia, comme il opprime les Shoarim. Les Shoarim, c'est les habitants des plaines puis des forêts autour. Là, c'est... Tandis que Mercadia, il habite sur la grosse ville, là, sur le cône.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que t'as comme une espèce de bon vieux conflit de civilisation. Puis là, les Shoarim commencent à faire comme... C'est pour ça que c'est des rebelles. Hein. Ils disent, hey, c'est assez la gang de Mercadia. C'est assez le monde des villes. Ouais, c'est comme...
On va voter pour la CAQ.
Ouais, puis fait que toutes les cartes rebelles dans Mercadian Mask, ça représente les Shoarim qui se battent contre la cité de Mercadia. Puis c'est toute une série de cartes blanches. Ça, c'était vraiment fort à l'époque. C'était qu'ils sont toutes rebelles, puis tu peux aller fetcher d'autres rebelles quand tu le tapes, puis tu payes en mana. Tu sais, comme le Ramosian Captain, tu payes 5, tu vas chercher un rebelle qui a un converted mana cost de 4 ou moins. Fait qu'une fois que t'en avais un en jeu, techniquement, là, c'est à mesure que tu ramasses ton mana, t'es capable d'aller fetcher tout le monde pis t'es immédiatement en jeu.
Ça te fomente une rébellion, cette gang de gremlins-là, mon gars, ça arrête pas de se multiplier. Ouais. Fait que là, ça va prendre de l'ordre un petit peu, c'est quoi? On va mettre des elfes là-dedans, quelque chose?
Il y a pas d'elfes dans Mercadia, tu vois qu'on va. C'est des dryades. Non, je pense qu'il y a des elfes.
Non,
ben, des elfes? Non, c'est des dryades.
Il y en a pas.
Il y avait une dryade.
Mais... C'est tout des dryades, il n'y a pas d'elfes. C'est correct.
Moi, je suis pro-dryade, j'ai rien contre ça.
Est-ce que tu considères les Merfolk comme des elfes?
les elfes marins, c'est moins pire. Mais okay. Là, le territorial dispute, me semble qu'il y a, il y a de quoi. Hein? C'est you can't play lands, mais il y a manière de put land into play. Là, si t'as des lands dans ton graveyard, que, en tout cas, me semble.
Absolument, absolument. C'est can play, c'est de les jouer de ta main.
Ouais.
C'est... Si t'as si un Crucible of World, là, tu peux les amener.
Ah, dire. Voilà, voilà. Bon.
Fait que c'est ça, tu sais, comme on voit la carte Crackdown, là, les créatures qui sont pas blanches avec un power de 3 ou plus, on tape pas à leur untap. On voit les archers Shomano qui prennent en embuscade des gardiens de la ville. Fait que c'est ça. Fait que là, on a ce contexte de rébellion-là. Et comme j'ai mentionné, là, sur toutes les Basic Lands, on voit au loin la cité de Mercadia, qui est le cône inversé, là, la montagne inversée. Ouais. Fait que c'est là que, pendant ce temps-là, tu sais, pendant qu'Orim est avec les Chouarim, Gérard pis sa gang, c'est-à-dire, il est avec Karn, il est avec Anna, Miri est morte, fait qu'il est plus là, Krovax est plus là, on s'en rappelle, Erta, ils l'ont abandonné sur Tempest, fait que c'est...
Squee,
ouais, c'est ça, fait que c'est Squee, Tengart, Anna et Stark et sa fille, Takara, fait qu'ils se rendent sur la ville de Mercadia. Le Tower of the Magistrate, là, ça c'était le Lenrar qui faisait donnait protection à protection des artefacts à une créature to Land of Term. On voit bien là, l'espèce de palais qui est au milieu de la ville de Mercadia, qui est une reproduction de la ville elle-même, qui est comme une espèce de cône. Il y a comme toute une falaise qu'on voit, là, High Market, hein. Mm-hmm. Moi, j'adore le artwork sur cette carte-là. Là. Les lands de Mercadia sont quand même beaux, là, contrairement au reste des cartes. Là. Fait que la gang de héros, ils montent là pour monter sur Mercadia, pour ceux qui se demandent. Ils ont même mis l'ascenseur dans le set, le Mercadian Lift. C'est un artefact que tu peux, gars, c'est vraiment drôle. Winch. Tu payes deux colorless. Pour un colorless, tu mets un winch counter sur ton Mercadian Lift. Fait que là, tu crains le lift, tu sais. Puis après ça, t'enlèves X Winch Counter de Mercadian Lift. Tu prends une créature avec un counter, une Converted Mana Cost de X dans ta main et tu le mets en jeu.
Ah, oh, c'est pas bon.
C'est vraiment pas bon, mais c'est
il faut que tu payes un colorless, bon, hein. T'es là. Ça aurait pu être que tu payes pas de colorless, puis ça aurait été correct, mais là
ça, à l'origine, c'est probablement ça.
Ouais,
mais ils ont eu peur à cause de Urza Saga, fait qu'ils ont tout affaibli les cartes. Fait que c'est là qu'ils nous présentent les gardes de la ville, hein. Ils ont toutes sortes d'espèces de casse en con, là. Tu vois, Common Cause, Pretender Claim. Une fois qu'ils sont dans la ville, c'est toute des artworks d'intrigues dans les rues, là, tu sais, dans les ruelles. T'as aussi une autre mécanique tribale, c'est les mercenaries qui sont dans le noir, les mercenaires. Puis ils font toutes la même chose que les rebelles, mais à l'inverse. Les rebelles, c'est que, tu vas tout le temps chercher une créature qui est comme plus gros que celle que tu jouais.
C'est ça.
Les mercenaires, c'est plus bas. Fait que, tu sais, le Cataran Persuader, tu payes un colorless, tu cherches dans ta librairie pour un Converted Mana, un Mercenary de Converted Mana Ghost 1 ou moins. C'est vraiment moins bon.
Hein. Il y a une des deux mécaniques qui a l'air comme plus progressive, puis l'autre vraiment plus régressive. Je dirais, ouais.
Mais les Mana Ghost des mercenaries sont plus bas. Fait que quand tu jouais à gros, ça allait plus vite, là. C'était ça la gimmick. Ça se tenait dans le draft, mais en construit, c'était les rebelles qui étaient meilleurs.
Ouais, non, ça marche pas.
Le artwork est quand même cool. On voit le Cataran Persuader qui tient le knob par le collet, là, puis il est probablement en train de dire donne-moi de l'information. T'sais. C'est quand même cool. Moi, j'aime bien le titre Alley Grifter. Hein.
Ouais.
Il vient bloquer. Là, celui qui l'a bloqué doit discarter une carte de ses mains parce que c'est un Grifter. C'est quand même cool.
Mm-hmm.
Et vu que c'est une ville en cône, ben la marde d'en haut tombe en bas. Fait que là, ils ont mis des cartes concept. Je vous ai dit, c'est les cartes du concept sont dans Mercadia, mais adaptées à la saveur. Fait qu'il y a Stone Ring, le bon vieux Stone Ring que tu détruis un target land.
Mais c'est pourquoi que le monde va habiter là, tabarnak?
C'est des roches qui partent du top, puis qui tombent sur la ville en bas, puis du top du cône. Et qui écrase les maisons. Puis ça dit dans le Flavor Text, le retour de Ramos avait été annoncé par les désastres naturels et les tempêtes non naturelles. Fait que t'as comme cette espèce de gimmick là, de Ramos s'en vient. T'sais, on a vu les Shoarim, c'était aussi Ramos. Rain of Tears, c'est les toilettes. Hein? C'est, tu vois, c'est des genres de pluie de chimu. Là. C'est Destroy Target Land dans le noir. L'élitisme de Lino Flavor Text, cet ami, il est vraiment drôle.
Mercadian elitism is reinforced daily by physical position. Their neighbors are literally beneath them and are treated accordingly. Ben oui, hein, l'élitisme mercadien est renforcé chaque jour un petit peu, hein, et par position physique. Les voisins sont littéralement sous nous et ils sont traités voilà, comme des personnes inférieures.
En même temps, j'ai pas super pitié de ceux qui sont en dessous parce qu'ils ont rien qu'à juste...
Ben, mais c'est simple de même, mais peut-être tu peux être né là, puis...
Ouais, c'est la, deux, la seule ville.
Une civilisation en dessous des roches.
Je te trouve hautain, Andy. Je te trouve vraiment là, comme le...
Je suis très upper mercadienne.
On va aller justement dans le upper mercadien, en haut de la pyramide, hein, c'est on voit qui bosse la ville de Mercadia. C'est d'abord les magistrats qui sont reconnaissables à leur perruque de juge là, et leur grosse toge mauve. Puppet verdict, hein, pour 3, tu flippes un coin. Si tu gagnes le flip, tu détruis toutes les créatures avec un power de 2 ou moins. Si tu loses ton flip, tu détruis toutes les créatures qui ont un power de 3 ou plus.
Chris, hein?
C'est quand même fort, ça. Puis là, on voit le gars qui a flippé la scène. Il dit, c'est-tu pile que j'avais collé? Ça, c'est les magistrats, c'est les juges. Puis vous remarquez derrière lui, il y a comme deux bibittes, notamment un gobelin vert.
Mm-hmm. Puis une affaire qui sort du cinquième élément, là, au début, on dirait.
Ouais. Fait que c'est pour ça, la carte, c'est Puppet Verdict, hein, le verdict de la marionnette. Dans Mercadia, t'as les Kyren, K-Y-R-E-N. Il y a quelques cartes qui s'appellent des Kyren, c'est les gobelins dans Mercadia. Ouais. Kyren Sniper, hein, au beginning de ton upkeep, tu peux faire un de dégâts à un target player. On voit qu'il souffre dans un genre de sarbacane. Puis Kyren Negotiation, deux colorless, deux rouges, un enchantement, tu tapes une créature que tu contrôles pour faire un de dégâts à un target player. Ça, voit, ça fait des genres de... Ça change tes gobelins en Prodigal Sorcerer sur les joueurs. Hein.
Excuse-moi Jason, là, mais on devrait changer le Y par un A, puis juste mettre une espèce de coupe de cheveux weird au Kyren. Ouais,
pour faire des Kyren, bien sûr.
Si on connaît un artiste qui pourrait faire ça, je pense que ça serait...
Des Kyren Sniper.
Des Kyren. Kyren Sniper puis Kyren Negotiation. On est en 99.
Ça marche super gros.
Ça marche super bien. Fait que c'est ça. C'est que le monde de Mercadia, ceux qui dirigent la ville, c'est les gobelins. Les Kyren. Je suis désolé, il faut que je les appelle les Kyren.
Non, oui.
Conspiracy, 3 colorless, 2 noirs, un enchantement qui rentre en jeu. Tu choisis une créature type. Les créatures que tu contrôles et les créatures dans ton graveyard et dans ta main et dans ton librairie sont du creature type que tu as choisi. C'est montré qu'il y a comme une conspiration. La conspiration, c'est que les gobelins ont pris le contrôle des magistrats.
Mais qui ça, gère en même temps, c'est bon avec la dynamique rebelle et la dynamique mercenaire.
Ben, c'est exactement ça. C'est ça le running gag. Qu'est-ce que ça va faire, le fait que les gobelins règnent sur Mercadia? Ben, ça va donner un gros edge à l'équipage du Weatherlight.
Oh! Hey, mais je veux juste mentionner que les gobelins Karen qui prennent le contrôle du monde, moi, j'adore ça à date, Mercadia.
Ça marche.
Tu as dit qu'il y avait combien d'elfes?
Aucun.
On est bien en tabarnak. On s'en va faire la carte de la semaine, une présentation de l'adversaire 4303 Sainte-Catherine-Est. Allez faire un tour. Souvent, Emmanuel est là, mais il sera pas là en fin de semaine parce qu'il s'en va à Las Vegas pour vivre des affaires qui vont rester là-bas. Donc, beat à bonde, on s'en jase de l'autre bord. Fait que c'est quoi, on va jaser de gobelins encore? Oh!
Et voilà.
Parmi l'équipage du Weatherlight, il y a Squee Goblin Nabob. C'est la première carte de Squee. C'est enfin sa... Dans le Weatherlight saga, Squee se retrouvait enfin avec sa carte. C'était le gobelin. Tu sais, ça fait plusieurs épisodes qu'on le voit, là. C'est le comic relief de l'équipage. Et ce que ça fait en sorte... Goblin Nabob, je me suis renseigné pour le fun, c'est quoi un Nabob? C'est un mot hindou qui veut dire quelqu'un qui vient des triches pis qui est pas de la place. Fait que c'était souvent assigné à des... c'est comme ça que les gens de l'Inde appelaient les colonialistes anglais, là, qui se promenaient.
OK.
C'est des genres de parvenus, là. C'est ça que ça veut dire, un nabob. C'est très péjoratif comme mot.
OK.
Squee Goblin Nabob, c'est Squee qui est devenu un parvenu, parce que puisque les gobelins règnent sur Mercadia, là, ils voient la gang du Weatherlight qui arrive, qui sont des gens qui viennent d'ailleurs, ils savent pas trop où, et ils ont un gobelin parmi eux. Fait qu'il rentre. Tout de suite, là, ça ouvre là, la porte à l'équipage du Witherlight. Ils sont en bonne main. C'est que le Squee devient comme
le boss
d'eux, dans le fond. Là. Il est comme leur. Vu qu'il devient comme l'ami des Karen, ben, tu sais, ça fait que là, l'équipage du Witherlight sont en bon contact avec ceux qui dirigent le Mercury. Le problème, c'est que Caster, c'est Squee, tu sais. Fait que c'est pour ça que Squee est comme ma Bob.
Il est infiltré dans les Karen, c'est normal.
C'est un peu comme ces trois PO avec les Ewok.
Exactement, c'est exactement ça. C'est du Mark Rosewater cliché. Tu vois, c'est la carte de la semaine, hein? Un gobelin légende 1-1 pour 3. Deux colorless, un rouge. Au beginning de ton upkeep, Squee Goblin Nabob est dans ton graveyard, tu le ramènes dans ta main.
Oh yes, monsieur!
Cette carte-là n'est pas...
Il y en a juste un, là. Si t'en as quatre dans ton graveyard, des Squee, là, tu peux les remettre les quatre dans ta main, mon grand.
Exactement. Lis-nous le favorite text, Tommy.
General Tarngarth Roar, the General Nuisance, maybe. Ben oui,
c'est... Ben oui, parce que Squee, il se fait nommer général par les Karen, et il devient comme le nouveau boss de l'équipage du Witherlight, malgré eux, tu sais, parce que c'est les gobelins qui bossent. Cette carte-là, c'est vraiment la meilleure carte de Mercadin Mask.
Ah oui.
C'est une carte qui a passé à travers le temps, qui est dans plein d'archétypes de deck. Je vais vous montrer quelques façons de le jouer, puis je pense que Tommy a des suggestions aussi.
Mm-hmm.
Un deck qui était vraiment fort quand c'est sorti, c'était avec Survival of the Fittest. Tout ça, c'est vraiment simple. Si t'as un enchantement, tu payes un vert, tu discartes une créature et tu shuffles dans ta librairie pour une créature. Tu la révèles, tu la mets dans ta main, tu shuffles ta librairie. Mais là, que tu comprends que si t'as Squee, tu discartes Squee dans ton graveyard.
Tu vas chercher
un gros monstre.
Non, tu vas chercher un autre Squee.
Un autre Squee.
Tu l'utilises, puis là, tu vas chercher un gros monstre. Fait que là, le tour d'après, t'as deux Squee dans ta main pour aller rechercher deux autres monstres comme tu veux.
Oui, et puis ça se joue en combinaison avec Recurring Nightmare, qui tu sacrifies une créature et tu retournes Recurring Nightmare dans ta main et tu prends une créature dans ton graveyard pour la mettre en jeu directement. Fait que là, tu pouvais faire des grosses combinaisons avec ça pour sortir un gros 7-7 au tour 2. Là, ouais, ça joue avec des Mana Rock puis des Elfes. Une autre façon de le jouer, c'était avec Zombie Infestation, qui est un enchantement que tu discardes deux cartes pour faire un token zombie 2-2. Fait que si tu réussis à mettre tes 4 Squee dans ton graveyard, ben tu peux facilement discarter tes 4 Squee pour faire 2 tokens zombies à chaque tour.
Et voilà. Ça,
tu vas aller chercher des Buried Alive qu'on a déjà parlé, que tu prends 3 créatures. Ça va vite, des Firestorm que tu discardes des cartes pour faire X de dégâts. C'est un deck très...
T'arrêtes plus.
Il y a des decks de Squee. Il y a des decks dans lesquels il y a Squee, mais que tu peux même pas le caster.
Tu veux jamais le caster. Là,
c'est ça.
Ouais, non, parce que
c'est
la boîte à caster.
Moi, c'est avec, j'oublie tout le temps le nom, là, la forge de Vulcain, là, que tout le monde pige deux cartes dans l'upkeep. Là, ça fait comme un... ça coûte 2 colorless. Tout le monde, c'est dans Vision. Tout le monde pige une carte de plus pendant draw phase, puis personne n'a de discard phase.
Ah, c'est Teferi Puzzle Box.
Non.
Non?
Non. Tout le monde
pige... Ah, c'est Anvil?
Oui. Anvil of Bogarden, je pense que c'est ça.
Ouais, c'est Anvil of Bogarden.
Ah, ça, j'aime ça. 2 colorless, chaque joueur skip son discard phase. Dans son draw phase, chaque joueur pige une carte de plus, puis il faut qu'il jette une carte. Mais toi, tu jettes ton Squee. Fait que tu sais, tu leur piges le tour d'après, fait que t'as comme tout le temps une carte de plus. C'est super synergique, là. Moi, j'aime beaucoup ça.
L'autre façon de le jouer, c'est dans du contrôle bleu-blanc. T'as même pas besoin de rouge, là. On s'en fout de caster Squee. Fait que tu fais intuition que tu vas chercher 3 cartes pour mettre dans ton graveyard. Ou Careful Study pour crisser Squee dans ton graveyard. Le but, c'est de le jouer en combinaison avec Compulsion, que tu discartes une carte pour piger une carte. Fait que c'est tout le temps Squee que tu discartes. Et Solitary Confinement. Solitary Confinement, c'est un enchantement. Tu piges plus de cartes, mais ça fait en sorte que tu dois...
Personne peut te caster de sort, puis tu peux pas mourir.
Tu peux pas mourir. Tant que tu es capable de tout le temps discarter une carte à ton upkeep, ben, tu discartes tout le temps Squee. Fait que ça fait un lock. Ça, c'est un bon deck de contrôle avec Squee. Fait que c'est vraiment une carte que je trouve qui est le fun à bâtir, parce que il est bon pour ce qu'il fait, pas en tant qu'une créature. C'est une carte que tu discartes puis que tu ramènes gratuitement. Puis il n'y a pas d'autre carte dans Magic qui a cet effet-là.
General Nuisance, maybe. C'est Squee. Tu sais que ça a la face quand il a l'air tout croche.
Il a l'air content, il a l'air heureux.
Ah oui, au début c'était genre Frodon, après ça c'est devenu Tasseloff dans Dragonlance, puis après c'est devenu Squee. C'est la meilleure de toutes ces évolutions. Fait que, merci Jason pour la carte de la semaine. On va retourner voir c'est quoi qui arrive avec la révolte des Karen après cette tranche de Beat à Bombe. Let's go, go, Karen, go! Go, Karen, go!
Le problème des Karen, c'est que leur armée suck. Les soldats que je parlais tantôt, là. Comme les cartes dans Mercadin suck, je trouve que ça représente bien. Sont vraiment pas bons, les soldats de la ville. Là, on voit sur Flailing Soldier, pour un rouge, checkez bien comment c'est pas bon. C'est un 2-2 pour un rouge, tu te dis « Wow! »
C'est con.
C'est quand même cool. Un 2-2 pour un rouge, là, c'est vraiment bon, mais non. Parce qu'elle a comme habilité que n'importe qui peut payer un colorless pour lui donner +1/+1. Mais surtout, n'importe qui, incluant tes adversaires, peuvent payer un colorless pour y faire -1/-1. Et n'importe quel joueur peut jouer cette habilité. Et n'importe quand. Ça veut dire qu'il se garde 2 mana, puis ton Flailing Soldier est mort si toi, t'as pas de mana pour l'entraîner. C'est vraiment pas bon, right?
C'est particulier. Ouais. C'est pas...
Mettons que c'est peut-être meilleur genre en empereur ou en, tu sais, comme quand tu joues en multiplayer. Là.
Non, en multiplayer, c'est sûr qu'il y a quelqu'un à 2 d'ouvert. Fait que...
T'as tout le temps du monde qui a du mana de trop en multiplayer, fait qu'il va tout le temps être mort. C'est vraiment pas bon. C'était peut-être bon en draft. Il y a un autre cycle de cartes dans Mercadian que c'est les autres joueurs peuvent activer leur habilité à ces cartes-là.
Ok.
Je vais en parler plus dans ma deuxième partie parce qu'ils sont plus présents dans la deuxième partie du lore. Mais bref, les soldats de Mercadia sont pas bons. Fait qu'est-ce que les Karen vont demander? C'est à Gérard. Oh. Gérard est en charge maintenant de diriger les soldats de la ville contre les Shoarim. Et Gérard accepte à une seule condition, c'est que les gens de Mercadia les aident à réparer le Weatherlight.
Fair enough.
Fair enough. Fait qu'il dit, vous m'aidez à réparer mon vaisseau. Et je vous gagne cette guerre. On n'a jamais vu ça nulle part.
Ben, c'est le concept un peu, c'est correct. Ouais.
Sérieux, un homme blanc arrive, puis il apprend au monde comment se battre comme du monde, puis il gagne en devenant le capitaine, puis ça y prend comme 15 minutes de discussion avec le chef d'État pour le convaincre de ses compétences.
Parce qu'il y avait un ami Comic Relief Goblin.
Ben oui.
Mm-hmm. Hein? Charisma. 3 bleus, un aura. À chaque fois que la créature qui t'a enchanté fait du dégât à une créature, tu gagnes le contrôle de cette créature-là, tant que Charisma est en jeu. On voit Gérard là, qui se tient sur son genou et qui a vraiment l'air d'un fada. Et toi, c'était la nature de Gérard de mener les Mercadiennes à le suivre.
Et les Mercadiennes à le suivre.
Ouais. Tommy joue ça dans son deck de Prodigal Sorcerer. Il me l'a déjà montré là, avec les Surrend Spellcaster, Prodigal Sorcerer. Tu mets un Charisma dessus, puis tu peux voler en multiplayer, tu peux voler plusieurs créatures autour de la table.
C'est très, très,
sans,
très, très
sans bon. Attaquer.
Ben sans ouais. Attaquer.
T'es avec mes prog, là, je peux prendre tout le monde. Puis après ça, le tour, il recommence. Puis là, j'ai un spell qui fait que toutes mes permanents, ils on-tap pendant toutes les on-tap. Fait que là, je peux reprendre encore le contrôle de d'autres monstres. Là. J'ai du fun en essai avec ça, moi. Avez-vous vu le duck face de Gérard ici?
Alors, ben,
il est
vraiment
cool. Il est content, là. Ah,
c'est ouais, mon cas préféré, là.
Ben, c'est du charisme, ça, là. Il y a le vent, puis tout, là. La haie.
Ah,
ouais. Il crie en haut, charisme.
Moi, je fais juste me demander qui c'est qui te les met une caisse de lait juste avant de prendre la photo. Pour qu'il puisse non, s'appuyer le genou dessus.
C'est un soldat qui est à quatre pattes à terre. Là.
Non, c'est un cadavre. C'est une pile de cadavres.
Il a fait le Shoarim. Fait que là, c'est vraiment drôle parce qu'il y a plein de cartes où on voit Gérard qui va à la guerre avec ses soldats. Fait
que
Gérard,
irrégulier
de
Gérard. C'est ça.
Hein?
Il est comme sur un lion, tu sais.
Ouais, sur Gérard, les irréguliers de Gérard. Hein? Gérard irrégulier, 4 colorless, un rouge pour un 4-2 Trample Haste. Hey, c'est genre le ball lining du set. On voit Gérard, il est à côté de ses soldats, puis c'est une espèce de lion lait avec une crinière rouge. Il a réalisé qu'il allait se battre contre
eux. Il allait fêter par se battre contre eux, même s'il
n'était peut-être pas assez bien entraîné. C'est juste une 4-2, hein, ça meurt facilement. Hein. Au moins, elle a trample. Donc, c'est ça. Tu sais, Warpath, on voit vraiment les combats entre les Shoarim et les soldats de Gérard. Ça dit Shomano, le chef des Shoarim, hein, n'avait jamais vu les forces de la cité de Mercadia se battre aussi bien. Le magistrat avait probablement engagé un nouveau héros pour les clairement allusion à Gérard. Fait que Warpath, c'est un instant qui fait 3 dégâts à toutes les créatures qui ont bloqué. Dans ce combat-là, Gérard va se retrouver en duel contre le chef des Shoarim, qui est Shomano. La carte Lunge, qui fait 2 dégâts à une créature et 2 dégâts à un joueur. On voit Gérard qui transperce de son épée le chef des Shoarim, le chef des rebelles. Hein? Ça va pas bien, hein?
Mais là, ça va super bien.
Ouais, ça dépend pour qui tu prends, mais toi, tu prends pour les Karen, fait que ça va bien.
Ben oui, moi, je suis all-in Karen. Hey, go, man.
Ce qui est un peu comique, c'est que, tu sais, on se rappelle que Shomano était devenu le conjoint de Orim, hein, pendant que Gérard était parti voir les Karen. Honor of Fallen, c'est la carte qui représente l'enterrement de Shomano. Parce que là, tu sais, dans le fond, c'est Orim, j'imagine, là, c'est pas présenté sur aucune carte, mais j'imagine Orim est venu comme calmer la bataille et dire « Hey, lui, by the way, je le connais, là. »
On couche ensemble.
Ouais, fait que elle va bouder Gérard. On voit sur la carte « Renoncement
»
que tu sacrifies n'importe quel nombre de permanents et tu gagnes 2 de vie pour chacun que tu as sacrifié, pour 2. On voit que Orim est fâché contre Gérard, tu sais, elle est montée sur un genre de gros lion.
Ben oui, toi, c'est
elle fait comme adieu, mister, puis comme si c'était plus ben important à son équipage. Selon vous, il s'est passé combien de jours entre. Hein?
Ben c'est ça qui est pas clair, hein, parce qu'on dirait que ça s'est passé en 2 jours et demi. Là, genre, Gérard, il la voit, puis fait comme t'étais pas au vaisseau, toi, Calis.
Ben c'est ça, tu sais, comme.
Non, ça t'a fait même pas 45 minutes, c'est juste qu'il y a eu un time warp. Il y a quelqu'un qui a joué comme une couple de colorless, puis a fait montage.
Et voilà. Mais ce qui est le fun, c'est que elle renonce, c'est son chapeau d'Orim. Sa capote.
Oui, elle a maintenant les couettes de Shoarim.
Fait que ça va être Orim versus Gérard.
Fait que là, ça fait comme un schisme dans l'équipage. Mm-hmm. Hein? Pendant ce temps-là, c'est Anna.
L'archive de Karen.
Les archives de Karen. C'est un artefact pour 3 colorless. Au beginning de ton upkeep, tu peux enlever une carte de ta librairie et la mettre face down. Et après ça, tu peux payer 5, discarder ta main, sacrifier ton archive de Karen, prendre toutes les cartes que tu as enlevées du jeu et la mettre dans ta main. Dans le fond, tu changes ta main.
Hey.
C'est tellement une Karen qui est comme hey, c'est à moi,
c'est la boucle.
On voit, c'est que dans le fond, c'est que pendant que cette guerre-là a lieu dehors, Anna, qui est la mécano là, du Weatherlight, là, celle qui est en charge des moteurs, elle fouille dans les archives de la ville et elle découvre, dans le fond, qu'est-ce qui pourrait les aider à réparer Mercadia. Puis un truc qu'elle se rend compte, c'est que, et c'est un nouveau mystère qui est révélé, c'est qu'il y aurait un lien entre Ramos, là, la divinité Ramos, et les artefacts construits par Urza, parce que Anna, qu'on se rappelle, son père... qui était Barin, qui était l'assistant mage de Urza, elle reconnaît tout de suite des trucs qui sont fabriqués par Urza. Mais pas par Urza, mais par des gens qui ont appris de Urza. Et l'architecture et les machines sur Mercadia ressemblent beaucoup à des choses qui viendraient du légendaire artificier Urza. Elle trouve ça vraiment bizarre, puis elle se dit, ben dans le fond, ça veut dire qu'ils utilisent des Power Stones, puis il y en a des Power Stones sur Mercadia. Puis elle se rend compte qu'il y a un Power Stone qui s'appelle le Power Matrix. Ça, c'est un artefact pour 4 colorless, une créature gagne +1/+1, flying, first strike, trample, until end of turn.
Quand même bon.
C'est je vais pas lire le flavor text parce que ça a plus rapport à ce que je vais parler la semaine prochaine, là, que je vais faire la suite, mais ils partent à se dire, il faut qu'on retrouve où est cet artefact-là sur Mercadia, puis comme ça, on va pouvoir réparer notre Weatherlight. Le problème, c'est que ce que la carte représente, c'est qu'elle est en train de s'ostiner avec des gobelins, hein, parce que j'imagine, tu sais, c'est une gobelin bibliothécaire, là, en charge de les archives de Karen.
Tu veux dire une Karen, bibliothécaire.
Ouais. Ils vont partir, tu sais, Gérard revient, puis il part avec Anna et le crew pour se rendre, c'est l'île... de Saprazo. Faut qu'il traverse un désert pour atteindre la ville de Rashidan, pour ensuite prendre un bateau pour aller. Je vous ai dit, là, c'est une longue side quest.
Ben oui, vraiment, vraiment.
Parce que c'est sur l'île de Saprazo qu'ils vont retrouver cette Power Stone-là pour pouvoir réparer le moteur du Weatherlight. Fait qu'ils traversent le Dust Bowl. Ça, c'est le land que tu peux sacrifier un land pour détruire un target non-basic land. C'est pas ce land-là qui se sacrifie, by the way. Hein? Tu peux sacrifier d'autres lands.
Ouais.
C'est un genre de strip mine moins fort puis plus fort. Là, ça dépend comment tu l'utilises. On voit que la plaine est souvent traversée par des grosses tempêtes de désert. Puis la carte déshydratation, trois colorless, un bleu. Ça fait qu'une carte, une créature ne tape plus à son untap step. On voit la gang du Weatherlight. C'est Cissé, hein, la capitaine. Et celle qui est en camisole rouge, là, c'est Cissé.
Avec et Orim. Orim? Non, avec Anna.
Ouais, je me suis trompé dans mon storyline, excuse. C'est Anna, Orim et...
Orim est là?
Qui partent à la recherche du Power Stone. Gérard, il n'y a pas rapport dans cette side quest-là parce qu'il est trop occupé à diriger l'armée des trucs.
C'est ça, il a rendu...
Le party, c'est splitté, là. Fait que ils vont arriver à la... Ça m'arrive à la fin de mon épisode. C'est le port de Rashidan. Ça, c'est une des cartes les plus connues de Mirkadin Mask. C'est que c'est un land colorless, que tu peux payer un colorless pour taper un land. Fait que ça, c'est vraiment gossant. Ouais. Et puis qu'on va se revoir pour continuer le lore, je vais commencer. Qu'est-ce qu'il y a dans la ville de Rashidan?
Il y a des pirates, on s'en va dans les pirates!
Ouais, entre autres.
En passant, c'est Rashidan et non pas Rashidan.
C'est quoi, j'ai dit Rashidan, hein?
T'as dit Rashidan, mais c'est Rashidan.
Whatever.
Très important.
Vous avez eu la moitié de la side quest et
parce que
la
prochaine... Les gens qui habitent à Rashidan, là, c'est super insultant quand tu leur dis ça.
Dude, il y avait des gobelins carènes, moi je capote, là, ça va bien. Bravo Squee, il a gagné. Merci Joe d'être passé nous voir.
Merci.
On est un homme de peu de mots. Merci Andy d'être passé nous voir. On te souhaite un bon voyage.
Ah, on risque de se voir mardi. Je vais en parler avec Emmanuel, mais ça se peut que notre dernier show, ça va être mardi prochain.
Ouh,
parce qu'on part mercredi au matin. Fait...
Bon, ben voilà, on verra bien. Et merci beaucoup, Jason, pour cette tranche de lore qui n'implique aucun... Moi, je suis satisfait à bout. Là, ça faisait longtemps que je l'attendais, celle-là. Donc, on peut remercier aussi Martin Godette qui s'occupe du montage podcast.com, qui est notre hébergeur Radio H2O. Allez voir ça. On peut aussi dire merci à Bone qui nous fait le beat, à l'adversaire 4303 Sainte-Catherine-Est. Et à vous! Chers auditeurs, hein, venez nous rejoindre sur la page Facebook. Sinon, nos shows sont disponibles sur Spotify. Mon nom, c'est Tommy Godette et je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascro possible. J'n'meuf.
De la famille H2O Web Media.